לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir, Yael Bernstein, et en technique avec moi, Moshe Moscovitch. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 10 avril 2024, c'est le 187e jour de guerre contre le Hamas. Je vous rappelle que ce flash qui ne dure que 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM. On vous invite à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM, ainsi que sur la page de Cannes en français avec votre rendez-vous Facebook Live pour le journal complet. La chaîne de télévision Qatari Al Jazeera s'est tournée vers les combattants, hommes et femmes, en leur disant que ceux qui tentent de nous attaquer se heurteront à une forte défense et immédiatement après à une puissante riposte sur leur territoire. Nous excellons dans le fait que l'ennemi ne sait jamais quelle surprise nous lui préparons. Nous sommes attaqués sur plusieurs fronts et nous saurons réagir très rapidement par une action offensive décisive dans tout le Moyen-Orient, s'il le faut. La police envisage la possibilité d'ouvrir une enquête contre la docteure Anat Matar, professeure à l'université de Tel Aviv, soupçonnée d'un soutien à un acte de terrorisme suite à la nécrologie qui comprenait des éloges de sa part au terroriste Walid Deka, décédé il y a quelques jours en Israël d'un cancer. Le porte-parole de Tzal a informé que les combattants de Tzal continuent d'opérer dans le centre de la bande de Gaza, tuant un certain nombre de terroristes au cours de la journée écoulée lors d'un face-à-face, et des avions de combat et des avions de l'armée de l'air ont attaqué des dizaines de cibles dans plusieurs zones de la bande de Gaza, entre autres choses des sites militaires, des lanceurs, des puits de tunnels et d'autres infrastructures terroristes ont été neutralisées. Israël estime que les chances que le Hamas réponde positivement à la proposition américaine de cesser le feu et de libération des otages ne sont pas élevées. L'évaluation entendue à Jérusalem est que le départ de Tzal de Khan Younes ainsi que l'augmentation record de l'aide humanitaire entrée dans la bande de Gaza, qui ne faisait pas partie de l'accord, ont beaucoup nui aux négociations. Le Hamas s'entête à exiger la fin de la guerre et le retrait de Tzal de l'ensemble de la bande de Gaza et est déterminé à tromper ses médiateurs. Des responsables israéliens ont déclaré à l'agence de presse Reuters que dans le cadre des négociations au Caire sur un cessez-le-feu et un accord sur les otages, Israël aurait accepté d'autoriser 150 000 Gazaouis à retourner dans le nord de la bande de Gaza sans contrôle de sécurité. En échange, selon les sources, le Hamas s'engagerait à fournir une liste de femmes et de personnes âgées et de malades retenus captifs qui sont toujours en vie. En outre, les sources ont estimé que le Hamas n'est pas intéressé à conclure un accord à ce stade. Le bureau du Premier ministre a refusé pour l'heure de commenter ce rapport. Merci d'avoir suivi ce flash. On vous retrouve à 21h20 pour le journal complet. Au micro, c'était Yael Bernstein. En technique, Moshe Moscovitch. Shalom, depuis Jérusalem.
Buenas noches, soy Jessica Newa. Este es el flash informativo en español de las 9 de la noche. Tras el asesinato de sus tres hijos en un ataque aéreo israelí en Gaza al día de hoy, el líder de Hamas en Qatar, Ismail Haniyeh, dijo que agradece a Dios por concederle el honor de su martirio. En una entrevista telefónica transmitida por el canal Al Jazeera, el líder terrorista prometió que el grupo no se iba a rendir y que tales acciones no le harán cambiar sus objetivos y sus demandas. Dijo, la sangre pura está para la liberación de Jerusalén y Al-Aqsa y continuaremos marchando por nuestro camino y no dudaremos ni flanquearemos. Con su sangre generamos esperanzas, un futuro y libertad para nuestro pueblo y nuestra causa. Al Jazeera también informó que los tres hombres fueron alcanzados por un misil lanzado por un dron mientras viajaban en un automóvil camino a celebrar con familiares y conocidos con motivo de la festividad musulmana de Eid al-Fitr. Haniyeh añadió que casi 60 miembros de su familia habían sido mártires en la guerra y que él ha pagado él mismo el precio por el resto del pueblo palestino. El ministro de Gabinete de Guerra, Benny Gantz, pidió la adopción de su plan de alistamiento universal, insistiendo que si bien los israelíes no deben permitirse creer que todos los ultraortodoxos y los árabes servirán mañana por la mañana, tampoco deben renunciar a la promoción real de tal proceso. Hablando después de una reunión de su facción en Sderot, Gantz dijo: si hay alguien que esté dispuesto a abandonar el valor del servicio y las necesidades de seguridad y promover un plan de evasión, será retenido responsable. Esto en una aparente reiteración de su anterior amenaza de abandonar la coalición por la cuestión del enrolamiento. La Corte Suprema anunció que el 2 de junio se llevará a cabo una audiencia sobre el reclutamiento de hombres ultraortodoxos para las fuerzas de defensa. A principios de esta semana, el gobierno pidió permiso para obtener representación legal independiente para la próxima audiencia, en lugar de estar representado por la fiscal general, Gali Bahram Meara, con quien muchos en el gobierno tienen fuertes desacuerdos. La audiencia se llevará a cabo con un panel ampliado de 9 jueces, un aumento significativo de los 3 jueces obligatorios que requieren la mayoría de los casos. El gobierno solicitó una prórroga de 5 días para proporcionar información adicional al Tribunal Superior de Justicia sobre la crisis humanitaria en Gaza y sus esfuerzos para aliviar una posible hambruna allí. El tribunal solicitó la información después de una audiencia la semana pasada sobre peticiones que pedían al tribunal que ordenara al gobierno proporcionar acceso sin obstáculos a Gaza para suministros alimentarios, humanitarios, y acusaba al gobierno de obstruir los esfuerzos de ayuda. El Estado afirmó en su solicitud que aún no todos los funcionarios y autoridades pertinentes han podido presentar la información requerida. Según el gobierno, el suministro de ayuda humanitaria ya aumentó desde la audiencia y afirman que 1.174 camiones entraron en Gaza del 7 al 9 de abril, 789 de ellos con alimentos. La respuesta del Estado también señaló que 106 camiones que ingresaron al territorio desde el sur se dirigieron al norte de Gaza, donde el hambre y la desnutrición son más agudas, y otros 21 camiones ingresaron al norte de la Franja de Gaza desde Israel a través del cruce 96, que recientemente se abrió de forma parcial. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia dijo que no hay un plan inmediato para imponer sanciones a Israel para obligarlo a permitir más ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza. Francia impuso recientemente sanciones contra algunas personas que, según afirman, están relacionadas con la violencia excesiva por parte de los colonos en Cisjordania, y según sostuvieron desde el país, lo seguirá haciendo. Esto surge luego de que el ministro dijera en una entrevista que las sanciones podrían ser una opción para ejercer presión sobre el gobierno de Israel, lo que le valió tanto elogios como indignación, mientras que la guerra de Israel con Hamas en Gaza divide a la población francesa, hogar de grandes minorías, tanto musulmanas como judías. Por último, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que a cualquier judío que vote por un demócrata o por Biden se le debería examinar la cabeza. Trump también acusó a Biden de abandonar totalmente a Israel. Ya después del ataque de Hamas del 7 de octubre, Trump criticó a Israel por no anticipar el ataque, llamó imbécil al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y criticó al primer ministro Netanyahu. Más recientemente también se ha pronunciado a favor de que Israel termine el trabajo contra Hamas, pero también criticó el manejo de la guerra por parte de Israel y dijo que debería terminarla rápidamente. Hasta aquí la información. Soy Jessica Newa. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, como todos los días en nuestro programa. Que tengan una noche tranquila. Shalom desde Jerusalén.
ქართულიდან ანი რადიო კან რეკ აღამის მშოვანი სიახლე მიკროფონთან მერიამ შიკაშვილი აღამშვიდობის ომის 197 დღე სავარაუდოდ 133 გატაცებული ისევ ტყვეობაშია 120000 იძულებით გადაადგილებაში ეს ცოტა ძალიან ძიმე ტიპებია გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ისმაილ ჰანია სამიშვილი ღაზაში ისრაელის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ალ-ჯაზირას ქსელის ცნობით სამი მათგანი ბავშვებთან ერთად იმყოფებოდნენ ჰაერიდან გაანადგურეს როდესაც ისინი მანქანაში იმყოფებენ შაჭილს ტოლვით და ბალაკში ღაზის დასავლეთის, ასევე განადგურებულია, როგორც უკვე გაუწყეთ, მისი სამივე შვილიშვილი. ყატარის სატელევიზიო ქსელმა ალ-ჯაზირამ სულადღის შემდეგ ოთხშაბათი იტყობინება, რომ ჰამასის პოლიტიკური ხელმძღვანელის ისმაილ ჰანიას სამი ვაჟი დაიღუპა ისრაელის თავდასხმის შემდეგ ლუტოვილ ბანაკში. ღაზის დასავლეთით გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის მას სამი შვილიშვილი შეეწირა, როგორც უკვე გაუწყეთ. პარალელურად ისმაილ ჰანიას შვილები მოკლული იქნენ როგორც ამასის წევრები. ჩემი ვაჟების უკვლელობა არ იმოქმედებს ამასის მოთხოვნებზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ჩვენ არ დავნებდებით ისრაელის სანტას. ერები, რომელიც დანებდნენ, ვეღარ იმარჯვებენ, ვეღარ გადარჩენ. დამატებითი რეკომენდაციები: ჰანიეს სამი შვილი არიან ჰაზემი, ამირი და მუჰამედი, რომელიც შვილებთან ერთად ისრაელის ცეცხლის შედეგად დაიღუპნენ. ასევე თვის დასაწყისში მისი და ზება აბდალ სალემ ჰანეი დააკავეს ისრაელის ტერიტორიაზე. იგი ისრაელის მოქალაქეობით სარგებლობდა, ამოღებულია მის სახლში ფული და ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, რომელიც ტერორიზმთან არის დაკავშირებული. დღეს გუშინ მინისტრ კაბინეტის ხსნამაზე მთავრობის მეთაურმა ოფიციალურად შეუტია გენერალ ჰერცია ლევის, რატომ არ შევიდა რაფიახში, რატომ არ მიმდინარეობს ბრძოლები. გენერალი ცოტა გაოცებული დარჩა, რადგან მას არ მიუღია არავითარი ბრძანება, არავითარი გეგმა. რაფიახში შესვლას საგანგებო ბრძანება ჭირდება. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით რაფიახის შესვლას დღეს მხარი დაუჭირა მინისტრმა ბენი განცმაც და ისაუბრა ირანის ირგვლივ მნიშვნელოვანი სიძნელეების შესახებ, რომელსაც ისრაელის ქვეყანა შეუქმნის. ისრაელისა და ამერიკის, ანუ პროფესორის ნათანიელსა და ბაიდენის ურთიერთობები ყოველდღიურად იძაბება. ამერიკა და ისრაელი მნიშვნელოვნად სცილდებიან ერთმანეთს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით თითქოს ნათანიელ და ბაიდენი, თუმცა კითუკი დავახნოვით ტრამპის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას, რომელმაც უკვე ბაიდენი საარჩევნო კომპანიას წინ გაუსწრო, აკეთებს განცხადებას, რომ ბაიდენმა ისრაელი მიატოვა. თუმცა ამერიკაში თვითონ ამერიკის პრეზიდენტი ბაიდენი აკეთებს განცხადებას, რომ მან ისრაელი არა, მაგრამ ნათანიელ მიატოვა. ჯეკ ლუი, ამერიკის ერთში ისრაელში პრეს პრემიერ მინისტრის კანცელარიაში მივიდა, ოფიციალურად მოითხოვა ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც იყო შექმნილი ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთის გადაზიდვის პროცესში, რომელიც სამწუხაროდ ამ ორი დღის განმავლობაში შემცვიდა. მოგესალმებით, მინისტრთა კაბინეტის ხდომების ოფიციალური ინფორმაციები უკვე ნაკლებად ვრცელდება, თუმცა არსებობს მონაცემები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბაიდენისათვის, როგორ დაეხმარება ისრაელი ღაზის სექტორს, ღაზის სექტორის დახმარებისა და ჰუმანიტარული ტვირთის გადასაზიდად ისრაელმა სამი ტერიტორია გახსნა. მაგრამ არიან მინისტრები, რომელიც კატეგორიულად და ოფიციალურად ეწინააღმდეგებიან ისრაელის პოზიციებს, ელემენტარულად მძიმე შედეგების შეღება ნათანიელ შეცდომები დამთავრდეს. სამხრეთ ლიბანში დღეს განმავლობაში შეუტია ტერორისტული ცენტრების მთელ სამხრეთს, ქალაქ რამიაში, ბალადაში, იტაი ალ-შაბაში და იარონში, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა. ასეთია ჩვენი მოკლე გადაცემის ინფორმაცია. მე გემშვიდობებით ხვალისებ შევხვდით ერთმანეთს უფრო ვრცელი ინფორმაციით. შალომ იერუშალაიმ.
ინჯე იერუშალაიმ, შალომ რადიო, შალომ მანდგული მუხტარამდარი იერუშალაიმ. ხოზერ სათი ნოიო ჰაბდა. მომდი ხეთეთონ 5 დაკიხა მალუმოთ ხო მე რასამი მასები კი დაღომნა ქეთამონ ალაკაი აქსა შობი შტუმრს ჯან დავამდოდა ისოდას قوه بختری اسرائیل عسکرای خود را گرچند که بسیار در عسکرای خود را از سکتر از برورده باشد هم جنگ در سکتر از حالا دوام داده ایستاده است. از روی معلوماتی یک دو ساعت پیش که باشتون زیاد سه فرزندوی روگاری تشکیلاتی حماس اسماعیل خمیه نوبوشدن گفته در یک چند تیلی کنال های عرب ها چون الجزیره معلوم کردید. بعد از آن خودی اسماعیل خمیه معلوم کرد که حقیقت به فرزندوی خود رو گم کرد و به این حالت شادی است که آنها چون شهید شده نوبوشدن. بغیر از سه فرزندوی اسماعیل خمیه همچون سه نبرای او نوبود شدن گفته معلوم گردید. چطور که اتبالیم اسماعیل خمیه به این واقعه راضی از او گفت که من خورسن هستم که فرزندوی من به شهید شده نوبود شدن گفت اسماعیل خمیه. در باره بگروی گرفته شدیدان چطور که معلوم هست 133 نفر بگروی گرفته شدیدان حالا در دستی تشکیلاتی حماس هستند. سخن گوی قوی بختر اسرائیل هگر امروز گفتی که مایان کمتره پیش قدمی ها داریم گفته میتونیم. همچون پلانی که اسرائیل تیار هست به شتات متحده امریکا معلوم هست. اکنون پریزیدنت شتات متحده امریکا جو بایدن گفتی که باید تشکیلات حماس به طلب اسرائیل راضی شدنش شد و تشکیلات حماس معلوم کرد که مایان حالا این را انیق نفهمدیم. از مکتوب حالا انیق معلومات ها نگرفتیم. در گذشته گفته برام دابدیم که برای چیل بگروی گرفته شدنان را آزاد کردن تشکیلات حماس تخمینا 1800 تا 1000 به ترمان شستگان یعنی فلسطینیایی که در ترمان شستگان رو میخواید. و همچون گفته برام دابدیم که در خانیونس ها جنگ در اونجا کمتر دوام داده ایستاده است. سررشکر اسرائیل گفت مایان حالا در رفیح میدرانیم، در اونجا جنگ رو دوام میدیم و بعد از اون باز به خانیونس بازگشت میگردیم. گفته بودیم که شتاتوی متحده امریکا به دیگر دولت ها زیدی جنگ بود در خانیونس می باشند در رفیح هستند و اینی آنها می باشند همچون مصر که در سرحد مصر به رفیح سرحدهای بیتانی آورده شد و همچون تنک ها اگر ساخنان سکر عذب به مصر گروه شدی باشند باید این کنید نشود گفته مصر در اونجا سرحد بیتانی ماند. گفته و ممکن گفتن که همچون نه فقط میزه همچون دیگر عرب دولت ها ساخنان سکتر ازا را قبول کردنی نیستن. روزی گذشته اندونزیا با اجازت قوه بختر اسرائیل برای سمالات یک چند محصولات های هومانیتری به تشکیلاتی به ساخنان سکتر ازا رساند. از روی معلومات آن باشد باری کن که اندونزی اردن خود رو به سکتر از رساند. در گذشته دبرون دادیم که همچون یردن یا به دیگر دولت ها هم باروی پراشوت اردن خود رو رسانده بودند. در شمال هم حالا رومیا دوام داده ایستاده است. امروز چند بار از لبنان به سوی اسرائیل راکت پرانده شد. از روی معلومات چند دقیقه پیش در لبنان یک بینایی عسکرهای جنگورانی تشکیلاتی حزب الله افتنده شد و بغیر از آن همچون ایران یاردن خود را به لبنان رساندنی هست. اما شتاتوی متحده امریکا به ایران معلوم کرد که اگر به اسرائیل جواب دادنی باشید یا که جنگ دنی باشید دان که مایان گرچند که به رفتار اسرائیل راضی نباشیم هم مایان طرفدار اسرائیل شده همچون یاردن خود را به اسرائیل میرسونیم. گفته شتات متحده امریکا این معلومات را به ایران پورا پامانده داد. و آن خدا خط بگاه ستی دوزنیم بشمایم باید چه معلومات های انیق میرسونیم. شلوم میوشلیم.
Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro Yael Bornstein. En technique avec moi, Moshe Moshkovitz. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, c'est le 10 avril 2024, le 187e jour de la guerre contre le Hamas. Les États-Unis craignent une attaque de missiles contre Israël par l'Iran dans l'immédiat. Selon le rapport, on craint aux États-Unis que la vengeance iranienne pour l'élimination du haut officier de la force Quds ne soit menée à bien dans un délai immédiat. Selon le rapport, l'attaque comprendrait à la fois des missiles et des drones, ainsi que des véhicules aériens. On apprend que Tzal a éliminé 3 des fils du chef du bureau politique du Hamas, alors que ceux-ci se trouvaient dans une voiture avec au moins 2 de ses petits-enfants. Lors d'une mission particulièrement spéciale des forces de sécurité, je recevrai dans quelques instants Guy Philippe Goldstein, qui nous parlera de l'intelligence artificielle utilisée par l'armée israélienne et à quel point cet outil est important dans la guerre actuelle. Dans le magazine de ce soir, je recevrai Yael Ifra qui nous expliquera ce qui a poussé McDonald's à récupérer toutes ses franchises israéliennes et la Turquie à stopper ses ventes de matériel de construction, des boycotts pas si intelligents que ça, vous verrez. Mais avant tout cela, commençons par les nouvelles de ces dernières 24 heures.
Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Yael Bornstein.
Les États-Unis craignent une attaque de missiles immédiate contre Israël. Selon le rapport, aux États-Unis, on craint que la vengeance iranienne pour venger l'élimination du haut officier de la force Quds ne soit menée à bien dans un délai immédiat. Selon le rapport, l'attaque comprendrait à la fois des missiles, des drones et des véhicules aériens. La vengeance iranienne, selon le réseau américain Bloomberg, qui a rapporté ce soir que selon les informations des services de renseignement de Washington, on craint une attaque de missiles contre Israël dans l'immédiat. Les États-Unis et leurs alliés estiment que les filiales de Téhéran dans la région participeront à cette attaque qui impliquerait également des avions sans pilote et qu'elle viserait des cibles militaires mais aussi civiles. Il est également possible que l'attaque ne soit pas nécessairement commencée dans le nord du pays. La chaîne de télévision Qatari Al Jazeera a rapporté que 3 des fils du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, ont été tués dans un bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Shati à Gaza. Selon le rapport, 2 voire 3 de ses petits-enfants ont également été tués dans cette attaque. Dans le même temps, des journalistes gazaouis ont rapporté que la famille Haniyeh avait confirmé la mort de ses fils Razim, Amir et Mohamed Haniyeh. Avec un calme olympien, digne des meilleurs scénarios d'Hollywood, Haniyeh a commenté l'assassinat de ses enfants, déclarant à la chaîne de télévision Al Jazeera, je cite, « Je remercie Dieu pour l'honneur que mes enfants et petits-enfants soient devenus des chaïds, des martyrs. Mes fils sont restés avec notre peuple à Gaza et n'ont pas quitté un seul instant le territoire. Tous les habitants de Gaza ont payé un lourd tribut, et moi aussi. » Il a ajouté qu'avec cette douleur et ce sang, la Palestine crée un espoir, un avenir et la liberté pour son peuple, sa cause et sa nation. Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, n'auraient pas été informés à l'avance de l'intention d'éliminer les fils du chef du bureau politique du Hamas et n'auraient donc pas approuvé cette opération. J'ai maintenant le plaisir de retrouver Guy Philippe Goldstein. Bonsoir Guy Philippe.
Bonsoir Yael.
Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Vous êtes aussi un spécialiste de beaucoup d'autres choses. On va parler ce soir de l'usage de l'intelligence artificielle par Tzal. Faisons d'abord le point sur Lavender qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de la guerre à Gaza.
Oui, parce que comme vous dites Yael, on a reparlé encore de ce sujet qui, il faut le dire, est assez fondamental, non seulement pour Israël, mais pour toutes les armées modernes aujourd'hui, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec certaines de ses nouvelles formes. Et donc il y a un article qui est sorti de 972 Mag, qui est parfois une source un petit peu orientée, on va dire ça comme ça.
Juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 972 Mag, c'est un...
C'est un blog de journalisme avec, on va dire, un centrage qui est relativement pas nécessairement en faveur d'Israël, mais il faut écouter toutes les voix, et avec des journalistes qui sont pour le coup aussi israéliens. Nelson Mag avait déjà évoqué plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés par l'armée, dont un logiciel qui s'appelle Abzora, qui permet l'identification de certaines cibles géographiques, de certains bâtiments. Un autre très intéressant pour en parler, qui s'appelle Fire Factory, qui permet en fait d'identifier très rapidement des cibles de tir une fois l'identification des schémas de tir, une fois l'identification de cibles effectuée. Ça pourrait prendre normalement plusieurs heures de savoir, tiens, j'ai identifié une cible, et puis ça va passer par tel avion ou par tel drone. Et là, potentiellement avec l'IA, au lieu que ça prenne plusieurs heures, ça pourrait prendre quelques minutes. Et ça, c'est très important dans les opérations militaires, parce que ce qui permet en fait de traiter la cible plus vite et donc de gagner. Et puis d'autres éléments. Là, ce qui avait été mis en avant, c'est donc Lavender, qui est un logiciel qui permet non pas de cibler des bâtiments, comme le fait Abzora, mais de cibler des personnes. Et en particulier donc des militants armés, qu'ils soient seniors, qu'ils soient juniors du Hamas. Et dans l'article, il était évoqué plus de 37 000 militants qui avaient été ciblés. Et derrière ça, la capacité à prendre la décision de tir de façon quasi automatisée, sans même nécessairement qu'il y ait un visu humain ou que cette décision humaine de tir en fait soit prise d'une façon trop rapide. C'est un petit peu ce que laisse entendre l'article. Donc là, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes. Ouais. Une chose qui est certaine, c'est que oui, évidemment, non seulement l'IA est utilisée, mais on est passé à des éléments d'identification des personnes qui peuvent être des militants armés. C'est d'autant plus nécessaire, il faut le dire, dans le contexte de la guerre contre le Hamas, que le Hamas ne respecte pas les lois humanitaires de la guerre qui nécessitent une identification claire du personnel combattant par rapport aux civils, puisque la manière même de faire la guerre du Hamas, c'est de mélanger tout ça et d'avoir des militants armés qui sont habillés comme des civils. Donc il y a une nécessité pour essayer de traiter ces cibles-là, d'être capable de mieux les identifier. Il y a des logiciels qui sont utilisés. Il y avait un article du New York Times qui l'évoquait, un logiciel qui s'appelle Corsair, qui utilise la reconnaissance faciale pour s'assurer qu'on est bien face à des militants armés, puisque à nouveau le Hamas ne veut pas que cette distinction-là soit faite avec les civils. Bon. Et donc derrière la conversation, la discussion, c'est est-ce que Lavender, entre guillemets, aurait trop ciblé? Est-ce que Lavender aurait d'ailleurs accepté un taux de ciblage de risque, on va dire de dommages collatéraux et donc de risque de perte civile qui serait trop élevé par rapport aux enjeux que constitue le fait de cibler des militants armés du Hamas? Il y a une question qui est très ouverte. On ne le saura probablement pas maintenant. Tout ce que l'on peut constater, c'est de regarder tout simplement les chiffres tels qu'ils sont présentés à la fois par Tsahal et à la fois d'ailleurs par le Hamas,
oui.
Et de constater que ce que dit Tsahal, à savoir qu'il y a eu 13 000 militants armés du Hamas qui ont été neutralisés, tués par l'armée. Si je fais les calculs qu'évoque 972 Mag et Lavender, où il est évoqué qu'il y aurait plus de que pour chaque, en tout cas que pour certains cas de militants armés, on aurait accepté des pertes de 15 à 20 civils, voire même parfois de plus de 100 civils. Donc on pourrait calculer un nombre extrêmement élevé de pertes civiles par rapport au nombre de militants armés qui auraient été tués, en réalité, dans les chiffres tels qu'ils apparaissent, y compris lorsqu'on utilise des chiffres du Hamas, on n'arrive pas à ce type de rapport de force.
Donc,
on peut dire que on ne sait pas exactement à quel point Lavender a été utilisé. Si Lavender a été utilisé, ce n'est probablement pas de la manière dont c'est décrit dans 972 Mag, à savoir que soit ça a été peu utilisé, soit ça a été utilisé, mais en faisant quand même assez attention au nombre de pertes civiles, parce qu'on n'est pas du tout dans un rapport d'une perte militaire pour 10 morts civiles ou 20 morts civiles ou même 100 morts civiles, du tout. Et on n'est même pas à 37 000 palestiniens tués, puisque même le Hamas dit qu'il n'y en a eu que 33 000 qui ont tué. Donc tout ça pour dire que si on fait un petit peu de calcul, il y a probablement beaucoup d'exagération dans cet article. Des échos qu'on peut avoir avec ce que dit Tsahal, il est assez clair que quoi qu'il arrive, il y a des opérateurs humains qui sont dans la boucle pour savoir si les opérations de tir sont autorisées ou pas. Donc, à nouveau, il y a probablement beaucoup d'exagération dans cet article de 972 Mag. Ce qu'il faut être sûr, et ça, il faut que les éditeurs en soient convaincus, c'est que quoi qu'il arrive, d'une part, l'intelligence artificielle est un moyen que l'on voit et dans le monde civil et également dans le monde militaire qui est déjà en très large partie utilisé et qui va être extrêmement répandu. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une utilisation de cet usage de l'intelligence artificielle. On en est peut-être qu'au commencement. Et que d'une certaine façon, et c'est peut-être aussi ce que révèle cette conversation, cette polémique autour de l'utilisation de Lavender, c'est que, in fine, comme il y aura toute la donnée sur la manière dont les outils ont été utilisés, ce qui va être encore plus fort avec l'usage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on sera capable de bien tracer après coup, s'il y a des retours d'expérience, et ça pour le coup Israël et l'armée et Tsahal le fait systématiquement, eh bien on sera capable de bien voir comment ces systèmes d'armes nouveaux ont pu être utilisés, puisque grâce au système d'information, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien on est capable de tout tracer. Donc ça c'est quand même l'avantage très fort qu'on pourra avoir en plus avec ces systèmes d'armement.
Alors il y a un lien j'imagine intrinsèque entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
Oui, alors parce que ça c'est l'autre grand sujet et je l'évoque parce que en ce moment il y a CyberTech à Tel Aviv qui est l'une des plus grandes manifestations sur la cyber et là aussi évidemment on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle liée à la sécurité des systèmes d'information, à la cybersécurité parce que là encore une fois il y a une intrication très forte des deux domaines. Il y a de plus en plus de start-up de cybersécurité y compris en Israël, qui se créent pour essayer de sécuriser les systèmes d'information qui sont créés autour de l'IA. On a même entendu parler d'une start-up qui s'appelle Sierra, qui est une start-up basée aux États-Unis, mais où l'essentiel des effectifs, c'est des Israéliens, dont des Israéliens qui viennent de l'armée, et qui viennent de lever très récemment beaucoup d'argent, et qui est une start-up où l'IA joue un rôle prépondérant, une start-up dont l'objectif est de faire de l'assurance de la protection des données qui sont utilisées. Et qui est d'ailleurs l'une des toutes premières, peut-être la première start-up de cybersécurité à avoir atteint la valorisation de 1 milliard de dollars, ce qu'on appelle une licorne, depuis 2022. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et sur le papier, c'est une start-up américaine, mais en réalité, c'est une start-up israélienne. Et ça montre bien l'évolution du domaine où, effectivement, l'IA va jouer un rôle de plus en plus important. Dans un environnement, où ça a aussi été rappelé lors de CyberTech, où les tensions liées à la cybersécurité sont extrêmement fortes depuis 7 octobre. Ça a également été rappelé. On a évoqué des responsables de la cybersécurité israélienne, dont David Portnoy, qui dirige le National Cyber Directorate, l'Agence nationale de cybersécurité pour Israël, a évoqué une augmentation du nombre d'attaques d'un facteur x2, x3. Et donc, face à cette masse-là aussi, on utilise beaucoup l'IA. On l'utilise en Israël et d'ailleurs, ça a été aussi évoqué lors de CyberTech, on utilise cette IA en coopération avec d'autres pays. Et on a mis en avant, par exemple, le projet Crystal Ball, le cristal en français, qui a été développé entre Israël et les Émirats arabes unis et Microsoft, ça c'est très intéressant parce que c'est à la fois diplomatique, interétatique, mais également public-privé, puisqu'il y a un bout de Microsoft, et qui utilise l'IA pour faire un meilleur échange d'informations face justement à cette menace qui est très forte, et qui, pour dire les choses pour Israël, où à nouveau le principal danger, c'est cette menace cyber qui vient de l'Iran et du Hezbollah.
Alors, puisqu'on parle de l'Iran et du Hezbollah, je voudrais avoir votre réaction, même si je sais que vous n'êtes pas prophète, malheureusement pour nous. Vous qui connaissez bien les relations internationales avec l'Iran et d'autres pays, et le conflit de longue date entre l'Iran et Israël et les États-Unis, quelle est votre estimation de la riposte iranienne qu'Israël attend? Selon les États-Unis, Bloomberg, ça vient de tomber. Il paraît que c'est incessamment sous peu, là.
Alors, il faut noter plusieurs choses. Donc, c'est évidemment en réponse à l'attaque du 1er avril qui a tué le général Mohamed Reza Zahedi et six autres membres du corps des gardiens de la Révolution islamique et d'ailleurs d'autres personnes. Il y a une forme de temporisation légère de la part de l'Iran. Mais effectivement, tout le monde évoque la possibilité d'une riposte dans la semaine qui vient.
Après Eid al-Fitr, qui a commencé hier, aujourd'hui.
Voilà, hier. Exactement. Là-dessus, quel type de riposte pourra avoir lieu? Bon, certaines sources évoquent une attaque directe qui viendrait de l'Iran. Titre personnel, ça serait quand même un élément d'escalade, sachant que dans ce cas-là, il faudrait s'attendre à une riposte peut-être d'une nature très forte de la part d'Israël. Et que dans ce cadre-là, on serait quand même dans un élément potentiel d'escalade. Or, l'Iran, aujourd'hui, n'a peut-être pas envie, en fait, d'une escalade, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, mais faut le dire, qui est potentiellement terrible, c'est que l'Iran veut aller jusqu'au bout
de son
programme nucléaire, absolument. Et donc, s'engager tout de suite dans une escalade, voilà, c'est en fait mettre en danger les joyaux de la couronne, à savoir effectivement les installations nucléaires. Donc, peut-être que l'Iran n'a pas envie d'aller jusque-là. Et puis, il faut le dire aussi, la situation au Liban n'est pas complètement stable. Et il n'est pas sûr que s'il y avait là aussi un engrenage avec le Hezbollah, eh bien que même le Hezbollah, par rapport à la situation libanaise, puisse s'assurer d'un contrôle total du Liban. Donc là aussi, il y a beaucoup de pièces qui bougent. Donc, bon, ce qu'on peut dire avec les informations qu'on a, c'est que oui, il y aura une riposte parce que le coup qui a été porté à l'Iran est juste en termes de crédit de la puissance iranienne trop dure, donc l'Iran va essayer de riposter. À titre personnel, je serais très surpris, rien n'est impossible, je serais très surpris s'il y avait une escalade très forte. Ce qui est possible, malheureusement, et ce qu'on a déjà vu, c'est soit passer par des groupes auxiliaires, des proxys qui vont lancer des drones, qui vont lancer, voilà, soit du terrorisme, comme on a déjà vu le mois dernier au Pérou. La police péruvienne a arrêté des officiers des forces Al-Quds qui préparaient apparemment un attentat terroriste contre les officiels israéliens dans le cadre d'un forum de coopération Asie-Pacifique qui aurait lieu au Pérou. On sait que des cellules terroristes avaient été démantelées en Turquie, des cellules terroristes iraniennes pour faire ce même type d'opération. On connaît l'histoire du terrorisme agité par l'Iran, que ce soit en Argentine, que ce soit dans des opérations il y a plus d'une dizaine d'années qui ont échoué en Thaïlande, en Inde, etc. C'est peut-être aussi là auquel il faut s'attendre une forme de riposte de l'Iran.
Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup pour cette analyse et cet entretien et on espère à très bientôt sur les ondes de Canon français.
Avec très grand plaisir, Yael.
Le président américain Joe Biden a évoqué les menaces émanant de l'Iran, déclarant lors d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés du premier ministre japonais que les États-Unis ont un engagement sans faille envers la sécurité d'Israël. Il a ajouté que Netanyahou avait promis d'ouvrir un autre passage dans le nord de la bande de Gaza. Nous verrons ce que Netanyahou fera pour remplir cet engagement. J'ai été très direct avec lui et avec les membres de son cabinet de guerre. Ils ont convenu de faire plusieurs choses pour apporter davantage d'aide humanitaire et réduire considérablement le nombre de dommages collatéraux pour les civils. Haroldo Lazario, le commandant de la FINUL, la force militaire de l'ONU chargée du maintien de la paix au sud Liban, estime que le danger d'une escalade à la frontière israélo-libanaise est palpable et même réel. Dans une déclaration qu'il a publiée, Lazario a appelé à une cessation immédiate des hostilités, une action en faveur d'un cessez-le-feu permanent et d'une solution à long terme au conflit. Il a également indiqué dans un communiqué que 50 pays envoyaient des forces au sud Liban, convaincus qu'une paix à long terme était possible. Pour la FINUL, la seule solution au conflit est la solution politique et diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a répondu ce matin aux menaces iraniennes en écrivant en persan sur son réseau X que si l'Iran attaquait depuis son territoire, Israël riposterait et attaquerait sur le territoire iranien. Plutôt Khamenei avait déclaré qu'Israël devrait être puni pour avoir attaqué un complexe consulaire iranien à Damas. Pour lui, Israël a commis une erreur en attaquant la Syrie. Les consulats font partie des terres des pays qui leur sont associés et c'est comme s'ils s'attaquaient à notre terre. Israël a commis une erreur et il en paiera le prix. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a quant à lui visité cet après-midi la batterie du Dôme de Fer dans le Nord et entendu le commandant de la Défense aérienne, le général de brigade Gilad Birhan, parler de l'activité de la formation de ces derniers temps. Le ministre s'est tourné vers les combattants, hommes et femmes, et a affirmé que ceux qui tentaient de nous attaquer se heurteraient à une forte défense et immédiatement après à une puissante riposte sur leur territoire. Nous excellons dans le fait que l'ennemi ne sait jamais quelle surprise nous lui préparons. Nous sommes attaqués sur plusieurs fronts et nous saurons réagir très rapidement par une action offensive décisive et s'il le faut, dans tout le Moyen-Orient. Le porte-parole de Tzahal a informé que les combattants continuaient d'opérer dans le centre de la bande de Gaza en tuant un certain nombre de terroristes au cours de la journée dernière, en attaquant des dizaines de cibles dans plusieurs zones de la bande de Gaza, entre autres choses des sites militaires, des lanceurs de roquettes, des puits de tunnels et ce, avec des avions de chasse et avec les forces terrestres. Israël estime que les chances que le Hamas réponde positivement à la proposition américaine de cesser le feu et de libération des otages ne sont pas élevées. L'évaluation entendue à Jérusalem est que le départ de Tzahal de Khan Younes ainsi que l'augmentation record de l'aide humanitaire entrée dans la bande de Gaza, qui ne faisait partie d'aucun accord, ont beaucoup nuit aux négociations. Le Hamas s'entête à exiger la fin de la guerre et le retrait de Tzahal de l'ensemble de la bande de Gaza et est déterminé à tromper ses médiateurs. Des responsables israéliens ont déclaré à l'agence de presse Reuters que dans le cadre des négociations au Caire sur un cessez-le-feu et un accord sur les otages, Israël aurait accepté d'autoriser 150 000 Gazaouis à retourner dans le nord de la bande de Gaza sans contrôle de sécurité. En échange, selon les sources, le Hamas s'engagerait à fournir une liste de femmes, de personnes âgées et de malades retenus captifs et toujours en vie. En outre, les sources ont estimé que le Hamas n'est pas intéressé à conclure un accord à ce stade. Le bureau du Premier ministre a refusé pour l'heure de commenter ce rapport. En Judée-Samarie, les forces de Tzahal et du Shin Bet, accompagnées des gardes frontières, ont arrêté 9 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie la nuit dernière. Lors d'une opération dans la région de Kalandia, les forces ont confisqué 2 fusils M16 ainsi que 3 revolvers. En outre, des fonds terroristes ont été confisqués à Hebron. Il n'y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes. Jusqu'à présent et depuis le début de la guerre, environ 3700 personnes recherchées ont été arrêtées dans l'ensemble des divisions de Judée-Samarie. Environ 1600 d'entre elles sont affiliées directement au Hamas. Les Houthis ont affirmé avoir attaqué 4 navires dans le golfe d'Aden, dont 2 navires israéliens et 2 américains. Selon eux, les navires ont été attaqués par des drones et par des missiles navals. Des dizaines de manifestants ultra-orthodoxes ont manifesté au carrefour de Bar-Ilan à Jérusalem pour protester contre leur prochain enrôlement dans l'armée. Les ultra-orthodoxes ont brandi des pancartes avec l'inscription « Nous mourrons et nous ne nous enrôlerons pas dans l'armée ». Ont bloqué des bus, la police a dû évacuer les manifestants. Lors de la réunion prolongée du cabinet politique et de sécurité, hier, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a demandé de montrer au ministre une nouvelle vidéo des massacres du 7 octobre, mais seuls certains d'entre eux ont accepté de la regarder. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a quant à lui refusé. Selon plusieurs sources différentes, Smotrich aurait même déclaré aux ministres qui ont regardé la vidéo « Vous ne voulez vraiment pas dormir la nuit ». La vidéo récupérée récemment a été prise par les caméras GoPro des terroristes de la Nourba lors de la bataille à l'avant-poste de Nahal Oz et elle est liée à l'enlèvement des femmes soldats de la base. Gallant avait présenté plutôt aux membres du cabinet de guerre et la documentation avait laissé une forte impression sur les téléspectateurs. Des sources proches du dossier ont affirmé que cette observation avait poussé les membres du cabinet de gestion de la guerre à élargir le mandat de l'équipe de gestion des négociations pour l'accord des otages. De hauts responsables de l'administration américaine estiment que la déclaration du Premier ministre Netanyahou selon laquelle il y a une date précise pour l'incursion terrestre à Rafiah n'est rien d'autre qu'une vantardise. Plusieurs hauts responsables ont déclaré à CNN que la déclaration de Netanyahou était liée à sa situation politique délicate dans son pays. Hier, après qu'il a déclaré qu'aucune force au monde n'empêchera Israël de rentrer dans Rafiah, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et d'autres responsables ont précisé qu'ils ne connaissaient aucune date fixée pour une action dans cette ville du sud de la bande de Gaza. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a elle aussi vivement critiqué Netanyahou hier, affirmant qu'elle pensait qu'il ne s'intéressait qu'à une seule chose, sa survie politique. Dans une interview avec le consultant et commentateur politique David Axelrod, Pelosi a été interrogée sur l'opposition de Netanyahou à la solution des deux États en répondant « Je lui ai dit au fil des années, vous ne voulez pas faire la paix ou bien vous avez juste peur de la paix ». On va essayer de terminer sur des bonnes nouvelles. Le niveau du Kinneret a augmenté d'un centimètre et demi au cours de ces dernières 24 heures, s'élevant désormais à moins 209,49. Ceci a été mis à jour par l'autorité des eaux qui a noté que le niveau du Kinneret se trouve à 60 centimètres de la ligne rouge supérieure. Et enfin, le prix Turing, connu aussi sous le nom du Nobel de l'informatique, sera décerné au professeur israélien Avi Wigerson. Je dois le dire mal, Wigderson, diplômé de la faculté informatique de Taub et chercheur à l'Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton. Le prix est une récompense annuelle décernée par l'Association américaine pour les machines informatiques. On termine avec la météo pour demain. Il y aura de légères pluies avec des craintes d'inondations dans les cours d'eau de l'est du pays et sur la plaine côtière méditerranéenne du nord au sud. La pluie perdurera jusqu'à la fin d'après-midi. Dans la nuit, de légères pluies localisées seront encore possibles dans le nord et sur le long de la côte. Les maximales pour demain, Jérusalem 15, Tel Aviv 19, Haïfa 18, Tzfat 13, Tibériade 21, Ashdod 22, Beersheva 20 et Eilat 28 degrés demain. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Yael Bornstein. En technique avec moi, Moshe Moshkovitz et Michael Holschwein qui viennent nous rejoindre. À demain à 15h pour la première édition de l'actualité. Shalom depuis Jérusalem.
Yeah.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français. Politique, économie, consommation israélienne, l'analyse et l'expertise de Yael Ifra. Bonsoir Yael Ifra.
Bonsoir Yael.
Merci d'être avec nous ce soir. On a pas mal d'actualités. Alors, tout est un peu mêlé. Hein. C'est de la consommation, c'est de l'économie, mais c'est évidemment de la politique. On va commencer tout d'abord avec cette nouvelle qu'on apprend cette semaine. McDo Monde, donc McDonald's, rachète toutes les franchises israéliennes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça va changer au sein de notre consommation, nous, les Israéliens? Et est-ce que ça s'agit quoi, d'une punition, d'un boycott? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien oui, Yael, c'est une de ces occurrences où la géopolitique vient s'inviter dans notre vie quotidienne et en l'occurrence dans les loisirs, on va dire des gens un petit peu plus jeunes hein, qui mangent dans les fast-food de McDonald's. En fait, c'est une histoire qui est assez simple puisque et qui vient montrer surtout l'influence énorme et la capacité de ce conflit entre Israël et le Hamas d'avoir de créer une onde de choc qui va se répercuter dans le monde entier avec des véritables conséquences économiques très très fortes. Alors si l'on reprend, McDonald's Israël et donc a été une des premières marques internationales à braver le boycott des pays arabes et à ouvrir en Israël en 1993 avec un premier restaurant donc dans le canyon Ayalon à Tel Aviv qui est devenu, Yael, écoutez-moi bien, le restaurant le plus profitable du monde pour McDonald's, avec une queue qui s'étendait dans la rue jusqu'au parking du canyon, avec, vous connaissez, l'engouement des Israéliens hein, pour les marques internationales, et puis une volonté de reconnaissance. Hein. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec Coca et Pepsi, lorsque Pepsi a boycotté Israël, alors que Coca a fait un geste via ce monsieur Rubinstein qui avait obtenu la licence Coca-Cola et avait ouvert une usine à Bnei Brak. Et donc, en fait, les Israéliens, toujours, sont reconnaissants et viennent massivement acheter chez les marques qui ne les boycottent pas et qui montrent qu'ils sont capables d'être audacieux. Donc, ça fait maintenant 30 ans que Omri Padan est donc le franchisé historique de McDonald's, tout juste 30 ans, et qu'il en a fait une success story incroyable, ouvrant 225 restaurants en Israël, hein, c'est quand même beaucoup pour un pays qui n'est quand même pas si grand, il y a 5000 salariés, c'est un succès immense, McDonald's c'est la plus grande enseigne de restaurants en Israël, 1,5 milliard de shekels de chiffre d'affaires, donc véritablement une locomotive, y compris au niveau monde pour McDonald's, parce que bien sûr chaque pays a sa taille, hein, c'est évident, mais c'est quand même quelque chose qui était une vraie fierté.
Et une surprise aussi du coup, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de marques internationales qui n'ont pas marché. Je pense à Starbucks, je pense à Gap, je pense à plein de marques qui cartonnent dans le monde entier et qui pour le coup en Israël n'ont pas fait fureur, quoi.
Absolument, Yael, vous avez tout à fait raison, y compris la semaine dernière, 7-Eleven, qui arrivait il y a à peine un an, qui plie déjà boutique et qui va fermer. Mais oui, au niveau de l'alimentation, il y a eu Wendy's, il y a eu Quick, Wendy's a essayé d'ouvrir, il y a toutes sortes d'enseignes, Cheesecake Factory, enfin toutes sortes d'enseignes.
Mais j'étais où, moi ? Je leur aurais fait leur chiffre d'affaires si j'avais su.
Il ne devait pas être au courant.
Il fallait me dire, je serais allée juste pour les soutenir.
Oui, pour les gars. Leur meilleur client.
Je me rappelle la queue qu'il y a eu devant H&M quand ils ont ouvert aussi.
Absolument. Ouais, et là, en plus, c'est vraiment bon. Enfin, McDonald's, c'est devenu une enseigne qu'on voit en Israël partout. Ouais. Vraiment, et qui a tué d'ailleurs l'enseigne locale Burger Ranch, hein, qui a quasiment disparu, enfin, qui existe encore, mais de façon beaucoup moins forte. Y compris, vous souvenez-vous, quand ils ont décroché la franchise, qu'ils ont écarté Burger Ranch de l'aéroport Ben Gurion, il y a quelques années, avec une offre qui était extrêmement généreuse. Bon, en tout cas, c'est un symbole et c'est une enseigne importante. Et donc, évidemment, lorsque la guerre a éclaté, dans un geste citoyen dont on aurait aimé qu'il soit un peu plus répandu, hein, Yael, On en avait parlé à cette époque, hein, de l'insuffisance de la participation du secteur des affaires en Israël à l'effort de guerre. Eh bien, Omri Padan a offert des milliers de repas aux soldats de Tsahal. Il a offert des milliers de repas, ou plutôt des dizaines de milliers de repas, aux évacués des kibboutzim et des localités du Negev occidental, hein, du Otef Aza. Il a offert également 50% de réduction à tous les personnels de santé et à tout le personnel des forces de sécurité en Israël. Et donc, ça a été extrêmement mal vu dans les autres pays, en particulier dans les pays arabes, et on a pu assister à une vague de boycott, mais énorme, qui a balayé tout le monde arabe depuis l'Indonésie, en passant par la Malaisie, en passant par la Jordanie, mais véritablement quelque chose d'extrêmement violent, Yael, puisqu'il y a eu des restaurants McDonald's qui ont été vandalisés. Il y a eu des manifestations de soutien au Hamas organisées à l'entrée des restaurants McDonald's au Caire, par exemple, en Turquie, au Liban. Et McDonald's a véritablement vu les résultats, enfin, à savoir que ça a été vraiment catastrophique. L'action McDonald's a dévissé de 10%. Dans certains pays musulmans, on a enregistré un effondrement des ventes de 50 à 90%. Rendez-vous compte de l'effet de boycott énorme dans des pays. Si vous pensez que l'Indonésie, c'est un pays qui a pratiquement, qui a, je crois, 800 millions d'habitants, ça rigole pas du tout pour McDonald's quand tout d'un coup, tous ces restaurants se mettent à être boycottés. Même si les ventes en Europe de l'Ouest et aux États-Unis n'ont pas été impactées, eh bien, la direction monde de McDonald's a senti un petit peu le vent qui lui soufflait dans les oreilles. Et il s'est dépêché de prendre des mesures. Et donc, on peut penser, même si aucune raison